Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Rédigé en 1939 pendant l'exil londonien de Sébastien Hafner, puis publié à titre posthume en Allemagne en 2000. Histoire d'un Allemand est un récit autobiographique et une analyse de l'effondrement politique allemand entre 1914 et 1933. Hafner ne propose ni une histoire générale du nazisme, ni les mémoires d'un acteur dirigeant, il restitue l'expérience d'un Berlinois issu de la bourgeoisie. Enfant pendant la Première Guerre mondiale, puis jeune juriste au moment de la prise de pouvoir hitlérienne. Cette position ordinaire fait la force du livre. Les grands bouleversements y apparaissent dans leurs effets concrets sur l'école, les habitudes sociales, l'administration, les relations professionnelles et la conscience individuelle. L'auteur cherche à rendre intelligible non seulement la violence nazie, mais aussi les accommodements, les illusions et les renoncements qui ont permis son installation. Son témoignage associe l'immédiateté du souvenir à une lucidité rétrospective. Il montre comment une société peut perdre ses repères démocratiques avant que beaucoup de ses membres ne mesurent pleinement ce qui est en train de se produire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de l'enthousiasme de 1914 à la fragilisation des repères politiques, le récit commence dans l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, que Hafner découvre d'abord avec le regard d'un enfant. Ce point de départ est décisif, il rappelle que l'adhésion collective à la guerre, les réflexes nationalistes et la valorisation de l'unité nationale n'apparaissent pas soudainement en 1933, sans réduire le nazisme à une conséquence mécanique de 1914. Hafner décrit un climat mental dans lequel l'exaltation patriotique peut rendre moins visible la pluralité des opinions et le coût humain des choix politiques. Son approche évite toutefois la leçon rétrospective trop simple. Il ne prétend pas que chaque Allemand aurait déjà été nazi. Il montre plutôt comment certaines dispositions collectives ont été formées, puis réutilisées dans un contexte différent. La défaite, les ruptures de l'après-guerre et les incertitudes de la République de Weimar transforment ensuite le rapport aux politiques. Les institutions démocratiques demeurent pour beaucoup abstraites, alors que les crises sont vécues comme immédiates. Le livre aide ainsi à comprendre que l'autoritarisme prospère aussi sur une mémoire de la guerre, sur le désir d'ordre et sur l'incapacité à imaginer que des formes familières de discipline puissent devenir des instruments de domination. Hafner relie donc la grande histoire aux apprentissages quotidiens qui préparent, sans la déterminer à eux seuls, une vulnérabilité politique durable. Deuxièmement, la prise de pouvoir nazie observée comme une succession de basculements ordinaires. L'un des apports majeurs de Histoire d'un Allemand est de décrire l'installation du régime hitlérien non comme un seul coup de théâtre, mais comme une série de transformations rapides et concrètes. Après 1933, la presse, l'administration, le droit et les lieux de sociabilité changent de fonction. La violence des SA et l'antisémitisme cessent progressivement d'être des réalités périphériques pour devenir des éléments organisateurs de la vie publique. Hafner insiste sur la vitesse de ces basculements qui prend de court ceux qui espèrent encore que l'ordre légal, les habitudes bourgeoises ou la compétence administrative limiteront les nazis. Cette attente se révèle illusoire, car les institutions ne sont pas seulement supprimées, elles sont investies, réorientées et mises au service du nouveau pouvoir. Le témoignage donne ainsi une portée précise à l'idée de normalisation. Beaucoup ne consentent pas nécessairement à l'ensemble du programme nazi. Ils s'adaptent à une modification après l'autre, cherchent à préserver leur travail ou évitent les conflits. Or, cette adaptation réduit chaque fois l'espace de résistance disponible. Hafner éclaire donc un mécanisme politique essentiel, une dictature peut s'établir quand l'exception est absorbée dans les routines. Tandis que la perception du danger reste fragmentée et que les atteintes subies par certains sont considérées comme lointaines par les autres. Troisièmement, le encamaradement, la capture de l'individu par les rites de conformité. La dernière partie du livre accorde une place particulièrement éclairante à ce que Hafner appelle encamaradement. Le mot désigne l'expérience d'un camp de formation idéologique auquel le jeune juriste doit participer dans le cadre de son parcours professionnel. Il ne s'agit pas seulement d'une instruction politique explicite. Le dispositif agit par la vie collective obligatoire, les exercices, le vocabulaire, la surveillance mutuelle et l'effacement des distances personnelles. Hafner montre que la contrainte totalitaire ne repose pas uniquement sur la peur policière, elle vise également à remodeler les comportements ordinaires et à rendre coûteuse toute singularité. Dans un groupe où l'enthousiasme est attendu, l'ironie, la réserve ou le refus risquent d'être interprétés comme une hostilité. Cette pression produit un conformisme qui peut précéder l'adhésion véritable et qui suffit souvent au régime. L'analyse est concrète parce qu'elle part d'une institution apparemment limitée, un stage, un examen. Une étape de carrière pour révéler une ambition plus large, faire pénétrer l'idéologie dans les professions et dans les corps. le livre distingue ainsi avec finesse l'obéissance, l'opportunisme et la conviction, sans les séparer artificiellement. Lorsqu'une carrière dépend de signes de loyauté, l'individu est incité à jouer le rôle attendu. À force de répétition, ce rôle peut modifier ses relations aux autres et ses propres limites morales. Quatrièmement, apathie, petite lâcheté et disparition progressive de l'espace du refus, Hafner refuse de présenter la population allemande comme un bloc uniformément fanatisé. Son observation est plus inconfortable, il repère l'apathie, la résignation et les petites lâchetés qui permettent aux violences de s'étendre. Cette perspective ne minimise pas la responsabilité des militants et des dirigeants nazis. Elle explique pourquoi leur action rencontre si peu d'obstacles efficaces. Le problème central est celui de la gradation. Face à chaque recul, intimidation d'un adversaire, exclusion d'un juif, atteinte à l'indépendance de la justice ou propagande envahissante, il devient tentant de considérer que l'on n'est pas directement concerné ou qu'il est trop tôt pour agir. Or, l'accumulation transforme ce calcul prudent en participation passive à un nouvel ordre. Le narrateur examine aussi ses propres hésitations, ce qui empêche son témoignage de prendre la forme confortable d'une condamnation extérieure. Il restitue le désarroi d'hommes et de femmes attachés à une vie normale, mais insuffisamment préparés à reconnaître qu'elle est déjà en train de disparaître. Cette dimension rend l'ouvrage particulièrement utile pour penser la responsabilité civique. Hafner ne livre pas une recette simple de résistance. Il met en évidence que le refus devient d'autant plus difficile que l'on a accepté les compromis antérieurs. La liberté politique se défend donc aussi dans des gestes apparemment mineurs nommés les faits. Ne pas relayer les mensonges et ne pas traiter l'injustice visant autrui comme une affaire privée. En dernier lieu, un témoignage d'exilé où l'expérience personnelle devient document historique, Hafner rédige son manuscrit en 1939, après avoir quitté l'Allemagne en 1938. Cette situation explique la tonalité singulière du texte. L'auteur est assez proche des événements pour en préserver les sensations, les ambiguïtés et les détails vécus, mais suffisamment éloigné pour les organiser en réflexion. Il écrit avant que la Seconde Guerre mondiale et l'ampleur entière des crimes nazis ne reconfigurent durablement la mémoire de la période. Son regard porte donc avec une force particulière sur l'instauration du régime et sur ce qui, à ce stade, pouvait encore être vu, compris ou refusé. Cette temporalité fait du livre autre chose qu'une synthèse historique rédigée après coup. Le lecteur suit les perceptions d'un individu qui ne dispose pas d'avance de la conclusion de l'histoire, tout en bénéficiant de l'analyse d'un auteur conscient des erreurs de jugement commises autour de lui et par lui-même. La publication posthume renforce également la valeur documentaire du manuscrit. Sans le transformer en archive neutre, Hafner construit un récit, sélectionne ses souvenirs et propose une interprétation. Sa fiabilité tient moins à une prétention d'exhaustivité qu'à la précision avec laquelle il relie les structures politiques à l'expérience d'un jeune homme ordinaire. Il montre ainsi ce que les sources institutionnelles saisissent mal l'atmosphère morale d'une société. Les ajustements du langage et la manière dont la peur peut s'installer avant même de se dire ouvertement. En conclusion, Histoire d'un Allemand s'adresse en priorité au lecteur qui souhaite comprendre la montée du nazisme sans se limiter aux décisions des chefs, aux dates institutionnelles ou aux récits militaires. Il sera particulièrement précieux aux étudiants, aux enseignants et aux lecteurs d'histoire politique. Mais sa clarté le rend accessible à toute personne cherchant à saisir comment une démocratie se défait dans la vie courante. Son bénéfice intellectuel est de déplacer l'attention vers les mécanismes intermédiaires, le conformisme professionnel, la banalisation de la violence, la faiblesse des réactions collectives et la colonisation progressive des institutions. Le livre invite ainsi à examiner les conditions sociales de l'autoritarisme sans recourir à l'idée rassurante d'une population entièrement hypnotisée ou intrinsèquement monstrueuse. Par rapport à de nombreuses études sur le Troisième Reich, l'ouvrage se distingue par son point de vue situé. Hafner n'écrit ni comme dirigeant nazi, ni comme historien distant, ni comme victime décrivant rétrospectivement l'ensemble de la persécution. Il témoigne depuis la position plus ambiguë d'un jeune bourgeois berlinois, juriste stagiaire et témoin de la désagrégation de son monde. Cette position permet de voir comment les personnes qui se croient à l'écart des conflits sont progressivement atteintes. Rédigé en exil dès 1939, ses mémoires conservent en outre la fraîcheur d'une compréhension en cours, avant que l'issue de la guerre ne fixe les interprétations. C'est cette alliance de précision autobiographique, de sobriété analytique et d'attention au renoncement ordinaire qui fait de ce livre un repère durable parmi les récits sur l'Allemagne nazie. Si vous souhaitez soutenir Sébastien Hafner, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.